Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier? Pourquoi les crises de 1929 et de 2008 sont-elles historiques? Deux crises financières majeures en 100 ans. Le jeudi 24 octobre 1929 et le lundi 15 septembre 2008 sont deux dates qui ont marqué les esprits. La première deviendra le jeudi noir, car la bourse de New York connaît un krach boursier ou effondrement boursier à cette date. La seconde est celle de la faillite de la banque Lehman Brothers. Ces deux événements ont en commun d'ouvrir une crise financière brutale et globale qui va entraîner les économies occidentales dans la récession et le chômage. Deux crises majeures, mais différentes. Ces deux crises ont des points communs. Elles touchent le secteur financier dans son ensemble, se diffusent dans le monde entier et, par différents canaux de transmission, entraînent l'économie réelle dans une crise économique profonde. Mais elles ont aussi des différences importantes. Dans le déroulement, tout d'abord, la crise de 1929 est d'abord une crise boursière qui va se diffuser au système bancaire et entraîner ensuite l'immobilier. La crise de 2008 a démarré dès 2007 dans l'immobilier avant de toucher les banques puis les bourses. Les deux crises financières vont se diffuser à l'international, mais après 1929, les économies occidentales vont se refermer sur elles-mêmes en utilisant des méthodes protectionnistes, ce qui va aggraver la crise économique. En 2008, le commerce international va être touché par la récession mondiale, mais il va repartir assez rapidement, car les pays occidentaux ne vont pas se replier sur eux-mêmes. En réalité, les autorités publiques ont appris de la crise de 1929. Alors que les réponses des gouvernements avaient été faibles et tardives, en 2008, ils ont soutenu vigoureusement leurs économies par des politiques budgétaires et monétaires, ce qui a permis à la crise économique d'être moins profonde. Pourquoi la finance favorise-t-elle les bulles spéculatives? La finance est utile pour l'économie. La bourse est un des moyens qui permettent le financement de l'économie avec le financement bancaire. La bourse est un marché financier. Sur le marché primaire, les entreprises émettent des actions pour se financer. Les propriétaires de ces actions ont droit à une part des bénéfices, les dividendes. Ils peuvent revendre leurs actions sur le marché secondaire à un prix que l'on appelle le cours de l'action. Ce cours dépend de l'offre et de la demande d'actions. Depuis la crise de 2007, les volumes totaux de crédits bancaires ont baissé. En revanche, la valeur totale des actions sur les marchés boursiers est repartie à la hausse après la chute brutale de 2007 et 2008. Le développement du système financier permet de financer les entreprises et donc finalement la croissance économique. Néanmoins, certains travaux d'économistes indiquent que lorsque la finance atteint un certain seuil, elle ne favorise plus la croissance. La finance repose sur la spéculation. Sur le marché secondaire, les agents, pour être gagnants, doivent essayer d'acheter les actions des entreprises qui vont réaliser dans le futur des bénéfices et ainsi pouvoir leur verser des dividendes. Cela suppose d'anticiper l'évolution de la situation des différentes entreprises. Logiquement, le cours d'une action doit refléter les perspectives futures de profit de chaque entreprise. On appelle ce cours le cours fondamental. À long terme, c'est bien celui-ci qui prime. Par exemple, l'action d'Apple a vu son cours augmenter avec les succès de l'entreprise. Mais à court terme, pour être gagnant à la bourse, il faut être très réactif et anticiper les cours futurs pour acheter avant la hausse ou vendre avant la baisse. La spéculation consiste à chercher à réaliser des plus-values entre le prix d'achat et celui de revente d'une action ou d'un autre actif. Cette spéculation peut s'appuyer sur l'analyse des fondamentaux, mais également sur des facteurs beaucoup plus subjectifs et moins rationnels. La spéculation crée des bulles. Pour réaliser leurs anticipations des cours futurs, les traders ont tendance à adopter des comportements mimétiques et à suivre les autres traders. Cela se complique encore lorsqu'ils essaient d'anticiper la façon dont les autres traders vont eux-mêmes anticiper les cours. Finalement, la simple croyance dans la hausse du cours crée des comportements d'achat qui font augmenter le cours, ce qui renforce les anticipations à la hausse et conduit à des prophéties autoréalisatrices. Les cours ne reflètent plus du tout le cours fondamental et les bénéfices que réalisent réellement les entreprises. La spéculation alimente alors une bulle spéculative. D'autant plus que certains spéculateurs adoptent des stratégies suivistes et imitent la tendance passée. Comment réguler la finance et les banques pour éviter les crises ? Les canaux de transmission des crises financières à l'économie réelle. Un événement mineur peut suffire à faire éclater la bulle. Il suffit de presque rien pour que les anticipations se retournent, d'autant plus que les spéculateurs savent que la bulle ne peut pas augmenter indéfiniment. Dans ce cas, on peut voir survenir un crack, un effondrement brutal des cours causé par des ventes massives comme pendant le jeudi noir en 1929. Puisque chacun cherche à vendre et que plus personne ne veut acheter, apparaît une crise de liquidité sur le marché financier. En 2008, le point de départ de la crise fut moins brutal. Des défauts de paiement sur des crédits immobiliers, les fameux crédits subprimes, vont entraîner des ventes forcées, des faillites bancaires, puis une méfiance généralisée qui va pousser les banques à ne plus se prêter les unes aux autres. Cela provoque une crise de liquidité qui met certaines d'entre elles en difficulté, entraînant parfois des paniques bancaires ou bank run lorsque les ménages cherchent à retirer leurs économies des banques, amplifiant la crise de liquidité. Les autorités, comme les banques centrales, en soutiennent certaines, mais en septembre 2008, le Trésor américain décide de laisser la banque Lehman Brothers faire faillite. Il voulait faire un exemple pour éviter l'aléa moral qui poussait certaines banques à prendre des risques financiers importants, comptant être sauvées en cas de difficulté. Finalement, Lehman Brothers était bien too big to fail, trop grosse pour faire faillite. Sa disparition entraîna par un effet domino de nombreuses autres banques, créant une crise systémique qui obligea alors les autorités à intervenir pour éviter la disparition du système financier. Malgré cela, les banques vont réagir en réduisant considérablement les crédits et les prêts, aussi bien aux autres banques qu'aux entreprises ou aux ménages. Cette contraction du crédit, ou credit crunch, en réduisant l'accès au crédit des agents économiques, va contribuer à transmettre la crise à l'économie réelle. D'autres canaux de transmission, comme la baisse des revenus des ménages, vont également jouer pour transformer une crise financière en crise économique majeure. La crise entraîne aussi un effet de richesse négatif, car la chute des cours fait fondre le patrimoine des agents. Le collatéral, c'est-à-dire le patrimoine qui sert de garantie, se dévalorise, ce qui réduit la capacité d'endettement des agents. Enfin, la détérioration de la situation économique de ces derniers peut conduire à une épargne de précaution qui réduit d'autant la consommation et donc la demande. Les instruments pour réguler le système bancaire et financier. À la suite de la crise de 2008, un certain nombre de mesures ont été prises par les autorités monétaires et financières pour améliorer la régulation bancaire et financière afin d'éviter une nouvelle crise systémique et permettre une meilleure supervision bancaire. Il s'agit notamment de définir des ratios de solvabilité afin que les banques aient un minimum de fonds propres pour faire face à leurs engagements. Des stress tests permettent ainsi de simuler une crise et de voir si les banques pourraient y faire face. Des mesures supplémentaires sont imposées aux banques systémiques, ces banques de grande taille qui pourraient être « too big to fail » et entraîner l'ensemble du système. Les avancées sont réelles, notamment en termes de fonds propres des banques. Néanmoins, la taille des plus grandes ne cesse d'augmenter, ce qui laisse penser que le risque d'une crise systémique n'a pas totalement disparu.